Gouvernance Express. Les subtilités de la présidence. Ce balado est une idée originale de Lisanne Dosti, présidente d'ISA Légal, et traite d'un thème abordé dans le tome 3 de Béatrice Administratrice, Démystifier la gouvernance, que vous pouvez retrouver sur le site isalegal.com. Le président du CA n'est pas un super administrateur, même s'il a plus de responsabilités que ses collègues. Les responsabilités du président du CA varient en fonction de la culture d'entreprise, de l'historique de l'organisation et de la situation particulière dans laquelle une organisation pourrait se trouver. Elles varient notamment en fonction du nombre d'employés, de l'existence de comités au sein du CA. Si l'organisation est en crise ou en plein développement, le rôle de la présidence sera différent. En ce qui concerne le nombre d'employés, il faut savoir que 76% des OBNL ont moins de 5 employés. Si c'est votre cas, le PCA sera probablement plus impliqué avec le DG, et certains dossiers seront peut-être délégués à un ou quelques administrateurs. Ces derniers auront alors la responsabilité de gérer ces dossiers entre les réunions et de faire rapport au CA de l'avancement des travaux. Si l'organisation a mis sur pied des comités, ces derniers mettront la main à la pâte pour soutenir l'organisation dans l'avancement des dossiers et feront leurs recommandations au CA, soutenant indirectement la présidence. Lorsqu'une organisation a une vingtaine d'employés, le CA devrait intervenir principalement au niveau stratégique, là où il devrait être. Le président devra alors s'assurer que le CA s'intéresse aux opérations sans en prendre le contrôle, tout en assumant ses obligations de fiduciaire.
Bonjour, je me présente Béatrice, jeune professionnelle et administratrice d'un OBNL. Au fil des semaines, je partage avec vous les meilleures pratiques en matière de saine gouvernance et j'espère qu'elles vous permettront d'améliorer l'efficacité de votre CA. Je discute avec Elisabeth, administratrice et secrétaire corporative au sein de notre CA. Nous échangeons aujourd'hui sur les différents rôles qu'un président de CA ou de comité doit assumer pour contribuer positivement aux échanges en réunion et jouer pleinement son rôle de chef d'orchestre. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Béatrice.
Il y a quelque temps, nous avons discuté du rôle de chef d'orchestre du président de CA. Mais si tu le veux bien, j'aimerais aller un peu plus loin et échanger sur les différents rôles de la présidence.
Avec plaisir, Béatrice. Tu sais, j'ai présidé plusieurs CA et comités au fil de ma carrière, et chaque présidence a eu ses défis et demande une adaptation. Présider est un art, et j'ai encore des apprentissages à faire.
Ton expérience est bien plus grande que la mienne. Tu répondras assurément à mes questionnements.
Victor, notre président de CA, est plutôt un facilitateur, comme moi d'ailleurs. Nous utilisons rarement notre position de président pour casser les discussions et précipiter un vote. Nous avons un style de leadership qui se ressemble. Lorsqu'on préside un CA ou un comité, on devient un peu comme le gardien du bon déroulement des réunions, un chef d'orchestre qui veille avec bienveillance à ce que chacun joue sa partition avec efficacité. La présidence dirige les discussions et donne la parole aux administrateurs qui souhaitent partager leur vision ou poser leurs questions.
Et si personne n'ose demander la parole?
Je fais un tour de table et je sollicite l'opinion de mes collègues. Je sais que Victor parle parfois à un ou quelques administrateurs avant une réunion, surtout s'ils ont une expertise pointue en rapport avec un dossier qui est à l'ordre du jour. Il veut s'assurer qu'ils prendront la parole en CA. Il interpelle aussi nos plus introvertis avant la réunion, leur donnant ainsi le temps de préparer leur intervention. C'est aussi une façon d'assurer la participation de tous et de saluer la diversité des points de vue et des expertises.
J'ai remarqué que Victor expose habituellement son opinion après le tour de table.
Oui. Quand je préside, moi aussi, je parle presque toujours la dernière. Sinon, je crains d'influencer la position de mes collègues. Je préfère que tous s'expriment avant moi. Quand un président parle, il est raisonnable de penser que son opinion pourrait influencer ses collègues. Et il est parfois gênant d'aller à l'encontre de la position de notre président. En parlant à la fin, cela me permet de résumer les positions de tous, d'arriver à une conclusion et de déterminer la prochaine étape de ce dossier ou de formuler une résolution.
Je trouve que de parler en dernier démontre une préoccupation sincère à ne pas influencer les autres administrateurs avant qu'ils aient exprimé leur propre opinion. Cette approche montre à la fois une conscience de la dynamique du groupe et un souci de permettre à chacun de s'exprimer librement.
Exactement. Cette façon de faire me permet de synthétiser les différentes perspectives et de résumer les avenues possibles. Après avoir entendu tous les points de vue, cela permet au groupe de prendre une décision éclairée. En résumé, je facilite les échanges, je synthétise et j'expose les termes généraux d'une décision potentielle. Je recadre le projet de résolution proposé par le ou la DG et nous votons.
N'avons-nous pas déjà discuté des avantages indéniables d'un consensus et à quel point il peut être bénéfique?
Oui, oui, Béatrice, tu as tout à fait raison. Depuis que j'ai le privilège d'agir à titre de présidente au sein de mes divers CA, je favorise les prises de décision par consensus. Je pense qu'il s'agit de la meilleure façon pour un groupe de prendre une décision, même si à l'occasion nous votons. Parfois, je sens l'inconfort de certains des administrateurs et je ne demande même pas le vote. Je suggère alors que la direction générale retourne à la table à dessin et nous revienne avec un projet bonifié à une prochaine réunion. Nous augmentons ainsi les chances d'obtenir consensus et permettons à la direction d'enrichir le projet. S'il n'est pas possible de dégager un consensus, nous voterons.
Il faut donc un équilibre entre l'avenue que peut offrir un président et l'importance de permettre à chacun de contribuer pleinement au processus décisionnel.
Oui, c'est un doux équilibre.
J'ai remarqué que les discussions en réunion de comité sont un peu moins formelles qu'en réunion de CA. Je me trompe?
Non, pas du tout. Mais cela dépend aussi de la dynamique de groupe et de l'ADN de chaque organisation. Essentiellement, nous sommes dans un processus d'échange démocratique. Il est parfois plus facile d'échanger dans un petit groupe de 3 ou 4 personnes que dans un groupe de 9 ou 13 personnes. Nos introvertis se sentent habituellement plus à l'aise en réunion de comité qu'en grand CA. L'objectif est de faire le tour d'un sujet, de l'analyser afin de permettre à tous les participants de s'exprimer. Les habiletés relationnelles d'un président sont donc très importantes. C'est une question de style et chacun a sa couleur. Tu auras la tienne un jour, Béatrice.
Je ne suis pas tout à fait rendue là.
Ça viendra bien assez vite, chère Béatrice. Un dernier point avant que nous nous quittions. Il est toujours plus facile pour un président de jouer au chef d'orchestre en personne. Je préfère de beaucoup tenir les réunions en personne. Mais la formule virtuelle a quand même quelques avantages. Elle permet notamment de réduire les coûts reliés aux réunions de CA et de comité et diminue le temps de déplacement.
Avant, nous avions les conférences téléphoniques. Maintenant, les rencontres virtuelles.
Tout à fait. Je dirais que cette méthode dépanne. Je demeure une fervente du présentiel. Les formules hybrides, quelques administrateurs en virtuel et les autres en personne, deviennent de plus en plus populaires. Mais cette formule a toutefois ses limites. Les interactions entre les membres ne sont pas du tout les mêmes. Certains disent que les forces en présence sont bien différentes en virtuel et qu'il y a même une dissonance entre l'information captée en présentiel et celle perçue en virtuel. Exceptionnellement, nous pouvons bien accueillir un administrateur en virtuel ou au téléphone pour l'accommoder, mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Soit nous sommes tous en virtuel pour une réunion, soit nous sommes tous en personne. Le virtuel, c'est occasionnel. Voilà ma position.
Je constate que ta position est très claire sur ce sujet et je suis tout à fait en accord avec toi.
Ai-je répondu à tes questions, chère Béatrice?
Oui, tout à fait. Merci pour ce survol fort intéressant.
Avec plaisir.
Cette chronique est une idée originale de Lisanne Dosti, avocate, médiatrice accréditée, administratrice de société certifiée, administratrice agréée. Ce balado n'est pas un avis juridique et ne représente qu'un survol des informations pertinentes au sujet traité. Pour plus de conseils, de trucs, d'anecdotes, restez attentifs. D'autres balados suivront dans les prochaines semaines. Les chroniques sont également disponibles en version PDF. L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. Si vous souhaitez actualiser ou enrichir vos connaissances en gouvernance, vous pouvez aussi vous procurer les guides Béatrice, administratrice, démystifier la gouvernance. Nous vous invitons à consulter le site isalegal.com. Chronique préparée par Lisanne Dosti, lue par Frédéric Paquette, Lise Martin et Amélie Bonenfant. Musique de Philippe Bellemare et Marie-Audrey Noël. Une réalisation de Studio C1-C4.